La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Surtout, ne pas tenter d'être drôle, garder son sérieux. Rien ne serait pire aujourd'hui que de chercher à tout prix à provoquer l'hilarité ou même en coin l'esquisse d'un simple sourire. Car aujourd'hui, c'est bien du rire qu'il sera question à la suite dans les idées, et faites-moi confiance, le plus sérieusement du monde. Parmi toute la gamme des émotions au chevet desquelles France Culture a décidé de se pencher en cette période de fin d'année, c'est vers le rire que j'ai eu envie de me tourner, un rire franc pour conjurer la peur qui désormais, aux quatre coins de la planète, semble plus que jamais devenu le mode premier de gouvernement. Rappelons-le avec éclat, nous habitons la civilisation du rire, titre de l'essai d'Alain Vaillant, qui est mon invité ce samedi, à la suite dans les idées. Alain Vaillant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature à Paris-Ouest, Nanterre, et vous publiez donc aux éditions CNRS « La civilisation du rire ». Alors vous êtes donc, je le disais, professeur de littérature, donc littéraire, mais cet essai a une ambition plus large au fond. Cet essai puise beaucoup dans la littérature, mais il a l'ambition de traiter le rire aussi comme un phénomène anthropologique et donc comme un phénomène historique, comme un phénomène que la philosophie a pu aborder également. Pourquoi avoir pris ce parti, au fond, d'élargir le propos au-delà de la stricte littérature qui habituellement vous occupe? Vous êtes un spécialiste du romantisme, de la littérature du 19e siècle en particulier, Alain Vaillant.
Oui, il est assez peu question de littérature dans mon livre. En réalité, le rire est ma passion, une passion d'enfance et d'adolescence, et je ne pensais pas, il y a longtemps, en faire une spécialité. C'est progressivement, à force de travailler aussi d'abord sur le rire des écrivains et sur le rire en général, que j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'essentiel dont on pouvait faire un objet d'étude, et pour lequel il fallait absolument s'éloigner de la littérature et de toutes les spécialités. Enfin, les spécialistes du rire sont presque toujours soit des philosophes, des psychologues, des littéraires, des spécialistes des arts, etc. Et je voulais effectivement revenir à ce qui m'apparaissait comme la chose essentielle, la question anthropologique, hein, qui est bien résumée par la formule « le rire le propre de l'homme », même si les quelques animaux rient un peu, on peut quand même admettre que fondamentalement le rire est ce qui caractérise.
Il semblerait qu'on puisse faire rire les rats en les chatouillant.
Oui, oui, oui. Alors c'est pas notre rire à nous, mais on peut admettre effectivement que certains mammifères, dont les rats, sont sensibles aux chatouilles. Et ce rire de chatouille, de façon primitive, résume bien d'ailleurs ce que j'ai essayé de démontrer d'un point de vue anthropologique. Ce qui singularise le rire chez l'homme, c'est sa capacité à ne pas se sentir en situation de danger face au réel. Il écarte le réel. Alors, les chatouilles, lorsqu'on est chatouillé, on pourrait être agressé, et en fait, on n'est pas agressé. Et donc, d'un point de vue très primitif, le rire de chatouille contient déjà le rire humain. Mais cela dit, le rire humain est beaucoup plus complexe et riche. Et le rire, donc, c'est la manifestation de l'homme qui n'est pas aux aguets face au réel comme les animaux, et qui, mettant à distance le réel, peut développer la culture, la civilisation et tout ce qui concerne notre monde moderne. Et c'est pourquoi le sens de mon titre, la civilisation du rire, c'est non pas dire qu'il y a une civilisation caractérisée par le rire, mais que, par nature, la civilisation est produite par le rire.
Oui, au sens éliassien presque du terme. Il y a un procès de civilisation du rire, pourrait-on dire.
Oui, exactement,
aussi.
Oui. Mais qui remonte vraiment aux origines de l'espèce humaine.
Alors, la littérature est néanmoins pas tout à fait absente, ni même une interrogation sur le vocabulaire. Par exemple, vous remarquez que, d'abord, vous choisissez de parler du rire et pas du comique, ce qui n'est pas anodin, et vous remarquez qu'il n'y a pas d'adjectif praticable dérivant de rire, en fait, parce que risible, évidemment, c'est très dénoté péjorativement.
Oui, ça c'est tout à fait caractéristique de cette dévaluation du rire, alors singulièrement dans la tradition occidentale, risible, dérisoire, ridicule, enfin tous les adjectifs que l'on pourrait développer à partir du rire sont péjoratifs. Alors je dis que celui que je préfère, c'est drôle, parce que le drôle, c'est le troll à l'origine, c'est le personnage magique surnaturel, et ça me permet de souligner que le rire a à faire beaucoup plus à l'imagination, au rêve, au merveilleux, au fantastique, aux émotions les plus profondes et les plus artistiques de l'homme, contrairement à la vision très réduite qu'on en a à partir du comique.
Alors je le disais, la littérature est néanmoins présente dans votre livre, mais ce qui est assez incroyable, c'est par exemple la lecture que vous proposez dans votre livre d'un poème des Fleurs du Mal extraordinairement connu, qu'on a eu l'occasion d'apprendre à l'école souvent, de travailler, celui qui commence par « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle » et qui, au fond, est un poème beaucoup plus drôle qu'on ne l'apprend à l'école.
Oui, tous les poèmes de Baudelaire sont des poèmes ironiques qui partent du rire. Alors j'explique que ce poème est une sorte de réinterprétation du mythe vampirique et de façon extrêmement anticléricale comme souvent chez Baudelaire. Bon, ça c'est un mystère. Baudelaire est un auteur scolaire, donc doit être un auteur sérieux. Et paisiblement, cela fait un siècle que l'institution scolaire universitaire renouvelle les contresens les plus absolus sur la poésie de Baudelaire. Ça ne veut pas dire que Baudelaire...
Mais des contresens, véritablement, parce qu'au fond, on pourrait dire que finalement Baudelaire est aussi drôle que Molière.
Oui, c'est un drôle triste, hein, qui aboutit à la mélancolie. Mais oui, c'est un contresens. S'il était conscient, ce serait encore consolant. Mais non, c'est le problème de la canonisation des auteurs littéraires pour lesquels on ne veut pas voir à quel point, lorsqu'on est artiste et écrivain, le rire est une source d'émotion extrêmement profonde. Et je ne connais pas, dans ma spécialité qui est le romantisme et le 19e siècle, de grands écrivains pour qui le rire ne soit pas une clé essentielle. Parce qu'elle touche à l'essentiel, encore une fois.
Alors il y a une idée très très forte dans votre livre sur laquelle vous insistez beaucoup, Alain Vaillant, c'est l'idée que vous avez déjà commencé d'esquisser en début d'émission de ce que permet le rire en termes de mise à distance du réel. Le rire nous permet de nous trouver dans une position finalement de spectateur à l'endroit du monde et du même coup nous permet probablement de voir les choses différemment d'une part et d'autre part de les ressentir aussi différemment. On a là l'un des effets du rire et peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant besoin du rire pour simplement évoluer dans le monde que nous habitons.
Oui, c'est absolument vital. Pendant très longtemps, lorsqu'on a essayé de caractériser l'homme par rapport aux animaux, on s'est dit l'homme raisonne, il est intelligent, etc. Et on peut trouver des traces d'intelligence et de raisonnement chez les espèces animales. En revanche, cette capacité à se sortir du réel et de se dire je suis spectateur du monde et parce que je suis spectateur, je peux rêver, je peux imaginer, je peux créer. Ça, c'est tout à fait singulier et c'est en effet pour moi quelque chose de fondamental et de premier. Alors souvent, les anthropologues rattachent cette capacité de mise à distance aux croyances, à la religion, mais je défends l'idée que, jusqu'à preuve du contraire, la capacité à rire qui naît de la capacité à jouer, parce que les animaux jouent, mais non pas les êtres humains jouent, mais ajoutent le rire de spectacle au rire de jeu, sauf preuve du contraire, c'est la première manifestation de cette capacité à se désengager progressivement du réel. Et encore une fois, le geste de l'artiste, l'art moderne par exemple, qui va vers l'art abstrait à partir de la figuration, c'est aussi une manière de s'éloigner du monde réel. Il y a quelque chose de très proche, ce qui explique par exemple la proximité entre l'art contemporain et l'humour et le rire actuellement.
Mais souvent assez peu souligné, là encore, on a le même problème qu'avec la poésie de Baudelaire, c'est-à-dire que souvent les gens prennent très au sérieux l'art contemporain, qui certes doit être pris au sérieux à bien des égards, et en même temps, cela ne doit pas nous empêcher de prendre toute la mesure de la dimension comique considérable de beaucoup d'œuvres et que les artistes eux-mêmes revendiquent haut et fort, mais ils ne sont pas entendus autant qu'on pourrait l'imaginer.
Oui, alors ça commence à changer. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'il me semble actuellement, peut-être parce que nous sommes dans une culture de l'image, que l'art contemporain et l'humour dans l'art contemporain jouent un peu le rôle de l'humour dans la littérature au XVIIIe siècle. Il y a une sorte de passation de pouvoir entre la littérature qui, je trouve, par contre, a du mal à être drôle aujourd'hui. Enfin, il me semble que elle a renoncé au terrain de l'humour en le laissant soit aux médias, soit à l'art. Mais en revanche, de grands artistes contemporains, de façon parfaitement consciente, font rire et provoquent le rire, souvent d'ailleurs dans une dimension satirique, de critique de notre société. Et c'est une nouveauté enfin de l'art et de ce peut-être de cette concurrence perpétuelle entre le monde de l'écrit et le monde de l'image.
Alors il y a quelques auteurs contemporains qui sont malgré tout drôles. J'ai appris récemment que vous consacrez un texte à Michel Houellebecq dans un cahier de Lerne qui va paraître en janvier. C'est pour vous un auteur comique à certains égards, Michel Houellebecq ?
Ah, bon, c'est ce que j'essaie de démontrer dans mon article. Pour moi, Houellebecq est vraiment l'héritier en ligne droite du rire baudelairien, avec ce que ça suppose de mélancolie, bien entendu, d'utilisation des médias aussi, ce que faisait Baudelaire, de mystification volontaire. J'ai rencontré Houellebecq par hasard à partir de Baudelaire et j'étais absolument saisi par les similitudes et les réactions similaires qu'un personnage comme Houellebecq provoque aussi dans les milieux culturels.
Dans cet essai, La civilisation du rire, Alain Vaillant, vous vous intéressez donc à la grande littérature, la littérature contemporaine, l'art contemporain, mais vous vous intéressez également aux comédies populaires que le cinéma propose depuis qu'il existe, et, y compris à des films très contemporains, et vous intéressez notamment à la figure de l'acteur comique, parce que ça nous permet de comprendre peut-être aussi cet écart que le rire permet, cet écart qu'on peut observer entre le comédien et le rôle qu'il interprète.
Oui, ça c'est absolument, enfin, c'est une de mes découvertes. Toute la tradition occidentale sur le rire part de la condamnation d'Aristote, en tout cas du jugement d'Aristote à l'égard du comique. On rit parce que on enlaidit les hommes, on rit de l'avare, on rit de l'homme bête, etc. Au théâtre ou au cinéma, on ne rit pas d'un avare, on rit d'un acteur dont on sait qu'il n'est pas avare. Et le rire à l'égard de la comédie est une sorte de reconnaissance, de connivence, d'intelligence entre le spectateur et le comédien. Et cela change tout. Ça veut dire que le rire produit par la comédie est aussi un rire d'émotion, de profonde émotion, et c'est pourquoi on aime tant les grands acteurs comiques, et je dis effectivement qu'il n'y a pas de lien plus fort entre le public et un comédien qu'entre ce public et des grands comiques comme Bourville ou d'autres, etc. Et la conséquence de cela, c'est que un grand acteur comique fait rire parce que il ne fait pas oublier ce qu'il est lui-même, de Funès ou Bourville ou Danny Boone, il ne s'efface pas derrière son rôle, et que paradoxalement donc, les très grands acteurs comiques sont d'un certain point de vue de mauvais acteurs, puisqu'ils n'arrivent pas à totalement incarner leur personnage, mais sont de très grands acteurs comiques parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'incarnation. Et encore une fois, je le redis, on parle souvent des liens entre des publics et des grands chanteurs populaires. Je crois que vraiment l'amour le plus intense que peut éprouver le public à l'égard d'un artiste, c'est à l'égard des grands comiques. Et c'est pourquoi c'est une forme d'art absolument essentielle et qu'il faut admirer comme telle.
Vous avez quelques lignes que j'ai trouvées très très éclairantes à propos de l'un d'eux, à propos de Louis de Funès. Donc vous observez qu'il occupe une place un peu particulière parce qu'il est cet acteur comique qui joue des rôles de méchants au fond, ce qui est assez rare.
Oui, c'est quelque chose qui m'intrigue. Je ne connais pas d'autres grandes vedettes du comique qui aient incarné le méchant. Les grands comiques, bon, le plus grand c'est bien sûr Charlot, et toujours l'alliance de l'empathie émotionnelle et du rire. Et je me demandais si cette anomalie que représente Louis de Funès dans les années 50, 60, 70 ne résulte pas du fait que Louis de Funès serait l'incarnation de la mauvaise conscience de la France après la Seconde Guerre mondiale, et qu'au fond ce méchant-là portait le poids de peut-être beaucoup de choses que le peuple français aurait à se faire pardonner en quelque sorte.
Alors dans cet essai, vous revenez sur évidemment un certain nombre de travaux sur le rire, que ce soit de philosophie. Vous insistez par exemple sur le poids très lourd, trop lourd probablement, qu'a eu Bergson dans cette façon d'aborder le rire avec un livre célèbre. On a peut-être oublié à quel point Bergson a été un philosophe extraordinairement populaire, une véritable star de la philosophie. Et ce livre sur le rire est resté un classique, mais il propose une vision du rire un peu étroite, on va dire.
Oui, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Bon, je n'ai pas de... Bon, c'est un très grand philosophe, mais... Et je le dis, tous les spécialistes du rire, enfin, en viennent assez vite à admettre que l'hypothèse de base du livre de Bergson est assez superficielle. Bon, vous connaissez la formule du mécanique plaqué sur du vivant, et le comique supposerait une anesthésie momentanée du cœur. Or, si l'on pense à la scène la plus célèbre dans Les Lumières de la Ville, qu'on prend comme exemple pour ce mécanique plaqué sur du vivant où les machines s'affolent, mais Charlot... l'emporte sur la machine. C'est le triomphe de l'humain sur la machine. Il suffit de penser à des auteurs comme Rabelais, enfin la grande tradition du rire. Il y a une humanité dans le rire qui est absolument extraordinaire, et il y a aussi une dimension d'émotion, enfin d'empathie, de sentimentalité dans le rire. Voilà, c'est un livre qui est écrit par un philosophe qui était un philosophe mondain, extrêmement brillant, et le livre est brillant et agréable à lire. C'est le livre en langue française sur le rire, et donc le chauvinisme national fait que on fait de ce livre la référence absolue. Mais vraiment, enfin, il n'a pas joué ce rôle-là du point de vue simplement de la théorie du rire.
Mais s'il a occupé cette place, c'est aussi parce que, au fond, ce qu'il ressort de la lecture de vos pages, c'est que certes, beaucoup d'auteurs ont contribué à réfléchir sur le rire, mais la bibliothèque autour du rire n'est pas si abondante que ça au regard de la place centrale qu'occupe le rire dans nos vies.
Alors, en réalité, tous les grands philosophes ont parlé du rire. Et c'est une sorte d'obsession dont on peut suivre le fil de l'origine jusqu'à aujourd'hui. C'est l'institution, ce sont les universitaires, c'est l'école qui a du mal à faire sa place au rire. Et alors c'est tout à fait frappant en littérature, dès qu'on parle du comique chez Molière, on dit « attendez, c'est pas seulement comique, c'est sérieux, ça apprend des choses, on fait pour Voltaire, pour tous, etc. » Rabelais, on en fait une sorte de philosophe austère, alors que c'est plein de plaisanteries obscènes, etc. Donc c'est plus une difficulté de l'institution à intégrer ce que le rire est, c'est-à-dire ce mélange d'animalité et d'intelligence. Et évidemment, c'est ça le problème du rire, hein, et que aussi dans la tradition chrétienne qui explique la méfiance à l'égard du rire. Et voilà, c'est vraiment. Et le problème, c'est que comme la pensée théorique, la pensée spéculative aujourd'hui est de plus en plus dans l'institution, on rend le rire de plus en plus sérieux, d'où l'importance, dans tous les livres qui paraissent portés à l'ironie, c'est-à-dire le rire où on rit le moins, si je puis dire, qui est le plus convenable.
Alors, après vous être promené dans un certain nombre de livres qui essayent de dire des choses sur le rire, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue anthropologique ou sociologique, pour insister sur la dimension sociale, vous en venez, Alain Vaillant, à détecter, à isoler ce que vous appelez trois mécanismes du rire, qui nous permettent peut-être d'ouvrir la boîte noire, de mieux comprendre comment ça marche, le rire.
Oui, je voudrais ajouter un nom, c'est Freud, son livre sur le mot d'esprit, et pour moi, avec le livre de Baudelaire sur le rire, ce sont les deux grandes références absolument géniales sur le rire. Alors c'est trois mécanismes plus un, d'abord. Je commence par dire qu'on rit toujours parce que on reconnaît quelque chose de risible. On ne rit pas spontanément à quelque chose d'étonnant, autrement on serait inquiet. Et dès la naissance, inconsciemment, on se constitue une bibliothèque du rire qui fait que, puisqu'on reconnaît un élément risible, on a le droit de rire.
Donc la reconnaissance joue un rôle très important.
Fondamental, absolument essentiel. Et je le dis aussi, pourquoi rit-on lorsqu'on va à un spectacle comique? Parce qu'on y va pour rire. Donc si c'est pas drôle du tout, on ne rit pas, mais on a payé sa place et donc on est toujours bon public.
Donc il y a un cadre social, on pourrait dire, du rire, un cadre expérientiel.
Oui, puis c'est un désir. On désire rire. Ça relève autant de la psychologie que de la sociologie. Enfin, c'est une jouissance. Et donc, on désire jouir. Quand on va au restaurant, on espère manger. Lorsque, bon, la jouissance est toujours attendue. Et elle est créée par cette attente en grande partie. C'est absolument essentiel pour le rire.
Alors ça, c'est un mécanisme qu'on va dire liminaire en quelque sorte. Voilà. Et puis après, vous en distinguez trois.
Alors les trois, donc le premier sur lesquels s'entendent tous les spécialistes du rire, c'est l'incongruité. Il y a forcément des choses qui clochent. Et c'est parce qu'on repère une incongruité qu'on est alerté. Et c'est ce qui explique aussi le lien entre le rire et l'intuition scientifique ou l'émotion artistique. c'est la capacité de l'esprit à mettre ensemble des choses hétéroclites. Le deuxième, c'est ce que j'appelle l'expansion. Comme le rire est un plaisir organique aussi, on a envie de le continuer, de le dilater, donc le rire est toujours excessif. Les sketchs sont toujours longs, trop longs si je puis dire, l'essentiel est de continuer à faire rire. Mais cette logique d'expansion dont on parle souvent, logique d'exagération, d'hyperbole, etc., elle est d'abord physique, presque physiologique. Et la troisième...
Alors sur le deuxième, ça se retrouve dans tout simplement des tas d'écritures d'histoire où l'on exagère la taille des objets ou des personnes. Ce sont des mécanismes qu'on trouve vraiment quasiment systématiques.
Forcément, oui. Pour cette question de plaisir... que l'on fait éprouver, mais ça pose un problème technique pour les artistes, par exemple pour ceux qui font des films comiques. Il faut à la fois beaucoup de gags, beaucoup d'effets de surprise, et en même temps il faut des moments d'expansion, et la plupart des films comiques sont plus ou moins ratés parce qu'il y a des longueurs, mais ces longueurs là sont requises en quelque sorte par le mécanisme du rire, et donc il faut effectivement être un très grand metteur au point du rire comme Gérard Oury pour arriver à concilier la question d'expansion et aussi l'obligation de rapidité, d'incongruité et d'accumulation.
C'est-à-dire qu'il faut par définition en faire trop, mais ne pas dépasser cet au-delà du trop en quelque sorte.
Oui. D'où aussi la supériorité de la bande dessinée, où elle en fait trop, mais comme c'est une succession d'images et qu'il y a forcément des ellipses entre les images, il y a des trous qui permettent d'interrompre, si je puis dire, l'expansion.
Alors troisième mécanisme.
Et le troisième, c'est celui que j'appelle la subjectivation. Le rire est un moyen profondément de connivence entre les hommes. Rire, c'est d'abord le plaisir d'être avec quelqu'un. Et en fait, quand on y songe, et ça a été mesuré même par un chercheur américain, la plupart du temps, lorsqu'on rit entre amis, on rit de rien. On rit simplement pour entretenir cette jouissance d'être ensemble. Et de même, celui qui fait rire, il désire imposer sa subjectivité à l'autre. C'est une manière de se montrer, d'où l'importance du rire dans la relation amoureuse, par exemple. Et donc, le troisième mécanisme du rire, c'est cette façon d'attirer l'attention sur soi. Lorsqu'on voit un film avec Bourvil, on a l'impression de faire corps avec Bourvil, et c'est ce lien intime de sujet à sujet, approfondi par le rire, qui crée peut-être l'émotion la plus durable et la plus intense. D'où son utilisation par les artistes aussi. Baudelaire qui fait rire, c'est imposer sa singularité de poète à son public. D'où évidemment ma grande désolation quand je vois que la plupart des baudelariens ne voient pas ce rire, donc de mon point de vue ne voient pas ce sujet qui essaie de s'adresser à eux.
Vous avez quelques remarques aussi sur ce fameux poème en latin qu'il y a dans Les Fleurs du Mal et qui, là encore, est pris très au sérieux, alors que c'est des blagues potaches.
Oui, là, c'est une pure obscénité. Donc, en latin, il dit à une femme, rectemé gouvernar, gouverne-moi droit. Gouverner, c'est le gouvernail, donc ça veut dire tiens mon gouvernail droit. Donc, c'est une plaisanterie dont l'obscénité est évidente. Et c'est pourquoi Baudelaire l'a gardé en latin et s'est amusé à mettre dans ce recueil un poème latin qu'il ne pourrait pas traduire tellement la blague est lourde. Et là encore, les baudelairiens sautent par-dessus ce poème en disant que oui, Baudelaire met bien le latin, etc. Bon, mais bon, s'il aimait à ce point le latin, il aurait fait tout son recueil en latin.
Alors, vous en disiez un mot tout à l'heure, l'ironie est vraiment une forme très répandue du rire, peut-être en raison justement du corsetage du rire. C'est un rire qui reste discret en quelque sorte, qui n'occupe pas trop d'espace. Comment expliquer ce développement de l'ironie comme forme du rire, Alain Vaillant ?
L'ironie consiste à critiquer quelqu'un en faisant semblant de ne pas le critiquer. Donc l'ironie est constitutive des sociétés où il n'y a pas de liberté d'expression, tout simplement. Et si l'ironie est à ce point une spécialité française, c'est ainsi qu'on le voit notamment du côté du monde anglo-saxon, qui ne comprend pas toujours cette sorte de second degré narquois chez les Français, c'est parce que, notamment à l'âge classique, au XVIIe et au XVIIIe siècle, se développe une vie intellectuelle, une vie culturelle, une vie littéraire, dans un régime qui est un régime évidemment de limitation et de contrainte sur la liberté d'expression. Donc on dit les choses indirectement. On a fait la révolution en 89 et ça continue au 19e siècle, retour de la censure. Donc l'ironie est une belle chose, mais elle a ses limites. Il y a des moments où il est sans doute préférable de dire sérieusement ce qu'on a à dire et d'en prendre le risque. Donc je suis, encore une fois, l'ironie fait corps avec une certaine image du rire français, mais ce n'est pas en soi un idéal. Même si, évidemment, on comprend philosophiquement ce qu'induit l'ironie. C'est aussi un moyen de faire comprendre que les choses ne sont pas si simples qu'on le croit. Alors, c'est ce qu'on appelle l'ironie romantique ou l'ironie des romantiques allemands, où il s'agit de faire comprendre que les contraires coexistent au niveau de l'être. Mais il ne faut pas sous-estimer le contournement de la contrainte dans l'ironie par rapport à cette sorte d'assomption philosophique que serait l'ironie moderne.
Alors c'est vrai que l'espace public a considérablement changé entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, du point de vue évidemment de la liberté d'expression, mais aussi du point de vue du fonctionnement de ce qu'on peut appeler les médias. Et c'est cette dimension qui vous intéresse à la fin de cet essai, La civilisation du rire, Alain Vaillant. Le rire à l'âge médiatique, sachant que les médias, les modèles économiques des médias, on s'en est aperçu récemment pour l'élection américaine, reposent directement sur la sensation, sur l'émotion, la peur, mais aussi évidemment le rire. Le rire est un moyen pour les médias de gagner des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs, et donc de l'argent.
Oui, alors il y a trois choses. La première chose, donc, le rire, c'est traiter le monde comme un spectacle. Être face au monde comme un spectateur devant un spectacle. Or, par nature, les médias ont une fonction de représentation du monde. Donc, la culture médiatique est par nature virtuellement comique, virtuellement parodique. Et ça, on le voit dès qu'il y a des journaux, dès le 18e, 19e siècle, l'océan de la parodie médiatique, c'est pas du tout quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors, le deuxième point, c'est que nous sommes à l'époque de la culture de masse, et il est vrai que le rire est une véritable industrie, et je le dis, c'est l'industrie culturelle de très loin la plus puissante, parce que non seulement il y a des spectacles, non seulement il y a des médias, mais il y a aussi l'envers, tout le monde de la publicité, tout le monde du commerce, et c'est aussi mon troisième point, dans cette explication sur le rire d'aujourd'hui, il y a pour moi un lien consubstantiel entre le consumérisme et la logique libérale derrière le consumérisme, qui consiste à faire croire que les échanges économiques et les rapports de force économiques ne sont pas dangereux, et ce que crée le rire, c'est-à-dire créer cet état d'euphorie qui nous permet de ne pas craindre le réel, si bien que notre monde de plus moderne réalise ce qu'avait en lui-même le rire des origines.
Merci beaucoup Alain Vaillant. Je rappelle le titre de votre livre, La civilisation du rire. Voilà, c'était la contribution de la suite dans les idées à cette programmation de France Culture pour la fin d'année autour des émotions. C'est le rire qui nous a occupés à la suite dans les idées. Vous pouvez écouter cette émission autant de fois que vous le voulez sur la page de la suite dans les idées, sur le site de France Culture. Vous pouvez également sur cette même page vous abonner au podcast de la suite dans les idées. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet, à la technique Philippe Palares, à la réalisation Anne Pérez. Et c'est Étienne Klein et la conversation scientifique que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.